Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino, Camille André, Coppelia Ménardi. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny, réalisation Thomas Beau. Et autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Sandra Dancorale et Florian Guettet pour parler ensemble de Nymphéa, l'abstraction américaine et le dernier Monet. C'est au musée de l'Orangerie. Soudbot de Gupta Ada, rendez-vous, c'est à la Monet de Paris. Et puis enfin, Lutz Bacher, Silence of the Sea, c'est à Lafayette Anticipation. Coppelia Ménardi est là, qui surveille les fils Twitter et Facebook de notre émission pour donner à entendre les commentaires que vous pourriez avoir à faire sur notre programme ou les questions que vous avez à poser. Puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le film Mes Provinciales de Jean-Paul Sivérac qui est sorti ce jour dans les salles. Et nous ouvrons cette émission en nous rendant au musée de l'Orangerie pour l'exposition Nymphéa, l'abstraction américaine et le dernier Monet. Point de départ de cette exposition, c'est l'entrée au Museum of Modern Art de New York en 1955 d'un grand panneau des Nymphéa de Monet. Ici prend naissance l'idée selon laquelle Monet serait, je cite, une passerelle entre le naturalisme du début de l'impressionnisme et l'école contemporaine d'abstraction la plus poussée de New York. Fin de citation. C'est en tout cas sur ce postulat que se base l'exposition du musée de l'Orangerie à travers une sélection de quelques œuvres tardives de Monet et une vingtaine de toiles d'artistes américains parmi lesquels Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman, Philip Guston, Sam Francis ou encore Ellsworth Kelly. Le commissariat est signé Cécile Debray, la directrice du musée de l'Orangerie.
Jardin de Monet et son bassin de Nymphéa. Voici ce qu'en écrivit Clémenceau. Monet avait fait son jardin dont la plus importante partie était un étang de Nymphéa. La bordure d'une grande prairie avec dérivation d'une branche de lepte avait fourni l'étendue nécessaire et Monet y avait apporté l'ardeur d'une imagination résolue. Bientôt les succès d'horticulture dépassèrent toutes les espérances. Les indifférents même venaient s'émerveiller au miracle, ne fût-ce que pour dire « J'ai vu le jardin de Monet ». Le jardin de Monet compte parmi ses œuvres, réalisant le charme d'une adaptation de la nature aux travaux du peintre de la lumière, un prolongement d'atelier en plein air, avec des palettes de couleurs profusément répandues de toutes parts pour les gymnastiques de l'œil, au travers des appétits de vibration, dont une rétine fiévreuse attend des joies jamais apaisées.
Voilà, quelle joie, pour moi en tout cas, d'entendre Sacha Guitry, qui a filmé Claude Monet et quelques autres artistes. Ça n'empêche pas de parler de l'exposition. Corinne Rondeau, vous me regardez avec une telle intensité que je ne peux que fondre devant ce regard et vous donner tout de suite la parole.
Oui, alors c'est trois expos en fait. Il y a le rez-de-chaussée, l'exposition, c'est Cécile Debray effectivement qui en est la commissaire. Et puis avant de rentrer dans les salles des Nymphéa au-dessus, il y a une toute petite salle d'Ellsworth Kelly qui a été dont le commissariat est celui de Éric de Chassé, soutenu par les amis américains du musée, enfin le mécénat pour le musée d'Orsay et l'Orangerie. Alors évidemment, il faut pas se plaindre, il faut pas bouder son plaisir de l'œil, hein, puisque c'est quand même des choix d'œuvres qui sont assez remarquables. Je crois que la commissaire a trouvé qu'il y avait pas assez d'espace pour accrocher tout. Moi, je trouve qu'il y avait trop de pièces.
Une toute petite exposition, il n'y a pas beaucoup de salles, hein. Les espaces temporaires sont assez réduits.
C'est vrai, mais en soi c'est objectif comme remarque, mais quand on fait le parcours, je trouve qu'il y avait peut-être matière aussi à faire moins en faisant plus. Mais bon, peu importe.
C'est-à-dire, par exemple
C'est-à-dire que je pense qu'il y a, sur la fin de l'exposition, il y a peut-être un petit peu trop de pièces pour moi, mais voilà. Mais le début est très très beau. Je trouve que les nymphéas bleus qui nous accueillent à côté d'un tout petit Barnett Newman de fin des années 40, assez inattendu en fait, même s'il a une sorte de géométrisation, c'est déjà un choc. Puis dans la diagonale, on a un Rothko. Bon, qui n'est pas ajouté du tout.
Ah non, enfin, moi j'ai...
Et donc c'est assez beau. Et puis quand on arrive dans la perspective, on a deux ponts japonais de Monet, et donc au milieu, ça ouvre sur une salle, et on a un Maurice Louis qui est absolument remarquable. Alors cette exposition, donc elle est intéressante dans la mesure où d'abord on fête les 100 ans du musée de l'Orangerie. Deuxièmement, c'est une manière aussi de faire un accord avec le haut, parce que généralement on ne va pas voir les nymphéas, puis il y a trop de monde, en général on n'y va pas. Et puis c'est nous rappeler aussi l'importance d'une génération qui a eu sa maturité dans les années 50. Et effectivement, c'est à ce moment-là, dans les années 50, que grâce à Alfred Barr et une acquisition d'un panneau des nymphéas, que cette relecture de Monet a eu lieu aux États-Unis. Faut savoir qu'en 27, quand on ouvre pas quand on ouvre, mais quand on met les nymphéas, la critique est très négative à l'égard de l'œuvre de Monet, et que par ailleurs, plus tard, après la guerre, en 52 à peu près, les nymphéas redeviennent finalement, ils sont une redécouverte. Donc c'est vraiment les années 50 qui font une relecture à travers justement ce travail des expressionnistes abstraits américains. Et donc il y a vraiment, je trouve, un accrochage très intéressant, d'abord parce qu'il y a peu de Monet. Ils sont très bien placés, et c'est une manière en fait de jouer l'ensemble, et peut-être même de rejouer la question de la série chez Monet, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait pas une somme, mais ça fait un ensemble. Et je trouve qu'il y a un grand intérêt, parce que d'une certaine manière, c'est de défaire la chronologie, c'est-à-dire défaire l'histoire. Hein, il y a eu Monet, puis il y aurait les autres. Et puis c'est aussi cette exposition, c'est ce qu'elle veut montrer, à savoir justement, ce sont pas des descendants de Monet, ces Américains, sont au contraire une manière de reposer des problématiques plastiques et d'être dans une continuité de ces problématiques-là, plutôt que d'être ceux qui ont regardé, dans la mesure où on voit bien dans notre catalogue, à plusieurs reprises c'est indiqué, ces artistes ne se sont pas déclarés, ou ils n'aimaient pas, John Mitchell par exemple, ou Philip Guston n'aimaient pas Monet.
Ou ils n'ont pas vu aussi,
ou ils ne l'ont pas vu, il y en a que très peu qui l'ont vu, Maurice Louis par exemple, et Hélène Frank Cantella l'ont vu. Donc on voit bien que c'est un plaisir, un, de l'œil, et deux, on voit que ce qui est accroché est aussi lié en fait au discours qu'il y a eu Greenberg, mais aussi Louis Finkelstein, qui a créé cette notion après Hélène de Kooning, l'impressionnisme abstrait, et puis aussi des expositions en 58 et en 60, l'une de Lawrence Holloway et une autre d'un historien, William Stace. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien le nom.
Mais vous le dites, Corinne, avec passion, de toute façon. Sandra Dancourallé, premier regard sur cette exposition du musée de l'Orangerie.
Oui, j'ai trouvé aussi formidable cette exposition, bien que petite, parce qu'elle mettait effectivement en avant la modernité de ces nymphéas de Monet, et aussi elle affirmait que toute une génération, donc de manière très claire, hein, je trouve que l'accrochage est... Voilà, c'est très parlant, c'est très pédagogique presque, puisqu'on voit clairement la correspondance entre les œuvres de Monet et les œuvres de ces expressionnistes abstraits. Voilà, c'est aussi l'affirmation d'une génération qui a été influencée par cet impressionnisme tardif, pour couper aussi avec peut-être cette génération qui était lié plutôt au cubisme et à Cézanne. Donc c'est très clair dans l'exposition. Et il faut rappeler que les nymphéas, donc, ils ont été mal accueillis à la base. On parla de barbouillage, je crois. Justement parce que l'avant-garde française se détournait de l'impressionnisme devenu académique pour être attirée par cette révolution qui était le cubisme. Et ce sont justement ces barbouillages qui intéressent la génération américaine d'après. Et notamment, vous l'avez dit, Corinne, le critique d'art... Greenberg, il dit que justement ces barbouillages montraient aussi que la peinture sur la toile devait pouvoir respirer. Voilà, et on voit largement dans l'exposition en quoi les artistes américains s'en sont inspirés. Alors l'exposition, en fait, elle propose effectivement de suivre les différentes étapes de la critique d'art, en fait, qui ont permis de mettre en avant ces rapprochements ou cette continuité entre Monet et l'école de New York. On a d'abord donc cette définition, donc une première salle autour de la définition de la peinture américaine par Greenberg en 55 lorsqu'il fait son grand essai sur la peinture américaine moderne. Avec la mise en avant voilà, de toute une génération d'artistes. Vous parlez de ce tableau formidable de Barnett Newman qui nous accueille dès l'entrée et grâce auquel Clément Greenberg parlait de color field, donc vraiment cette idée de d'espace forme, en fait, de champ coloré, qu'il avait vu chez Monet et qu'il retrouve chez Barnett Newman. Ensuite, on a cette deuxième salle autour de cette notion d'impressionnisme abstrait, donc mise en avant par Hélène de Kooning, puis par Louis Finkelstein, qui a d'ailleurs, je crois, fait plusieurs expositions pour insister sur cette idée de la filiation entre Monet et ces artistes américains. Et on a une dernière salle, alors que moi j'ai trouvé tout à fait réjouissante, plutôt autour de la notion d'action painting, qui a été mis en avant cette fois-ci par le critique Harold Rosenberg, où on voit ce film très connu de Hans Namut montrant... Pollock au travail, dans ses drippings, et c'est mis en parallèle avec un petit film qui montre Monet au travail avec ses grands pinceaux et juste à côté une vitrine avec les carnets de croquis de Monet et là, ça m'a vraiment frappé parce qu'on dit que effectivement quand on voit les nymphéas, on voit bien qu'il y a une gestuelle qui existe dans ces nymphéas, et quand on se rapproche de l'œuvre, on est vraiment dans une abstraction. On voit ce qu'ont vu les artistes américains, mais ces carnets de croquis, c'est vraiment voilà, le symptôme de cette recherche d'une ligne très simple, d'ailleurs qu'aura complètement compris Elsewhere Skelly. Voilà, ça fait penser à ces exercices de vision dont il parle Elsewhere Skelly. Voilà, il y a vraiment cette idée d'une extraordinaire abstraction et d'une modernité dans ces carnets de croquis. Voilà, on est très loin de la peinture sur motif très précise. Voilà, il y a une sorte d'impulsion comme ça qui ressort de ces carnets de croquis.
Alors, je ne veux pas influer ou influencer tout à fait la prise de parole de Ferrand Guettet, mais tout de même, après ces deux premières interventions de Corinne Rondé et Sandra Adam Corollet, Sandra parle de cette filiation, comment appelle-t-on cela, du fait que les Américains aient pu être influencés par Monet, et que c'est... Alors, c'est très clair dans l'accrochage, dit Sandra, mais est-ce très vrai? Moi, je reviens quand même à cette question-là, qu'on a déjà évoquée avec Corinne Rondeau, et c'est quand même un postulat qui est vraiment à discuter, non?
Bah, tout à fait, parce que on se retrouve, en fait, sur une exposition qui ne discute pas vraiment la thèse qui est posée par Greenberg dès 1948, en fait, quand il écrit la crise de la peinture de Chevalet, où déjà il place Monet comme étant celui qui a refusé le plus le sujet et qui peut voilà, créer, enfin, en tout cas s'émanciper des règles de la composition. Et finalement, on a voilà, une redite, en fait, des échos, et cette filiation-là, elle est, c'est un postulat, elle est posée plutôt qu'elle est discutée. Ce qui fait que moi, je me suis retrouvé un peu sur ma faim. Je trouve que c'est une très belle exposition.
Oui, mais du fait, c'est presque une démonstration de quelque chose qui est quand même pas discuté, du coup.
Exactement, précisément. C'était mon avis. Donc, vous me foulez un peu l'herbe sous le pied.
Mais... Pardon. Mais non, mais je peux parler. Excusez-moi. Pardon. J'aurais dû me taire.
Mais en tout cas, ça dit peut-être moins sur l'héritage, parce que la question qui se pose, c'est la nature de ce lien de continuité, finalement, entre l'impressionnisme européen et l'expressionnisme américain, sachant qu'il y a cette coupure d'une d'une vingtaine d'années où effectivement on a refusé d'un côté, la critique a refusé Monet et les Américains ne s'en sont pas emparés tout de suite. Donc il y a effectivement une sorte de rupture de continuité à ce moment-là et se pose la question de savoir si on est dans une influence, un prolongement direct, une inspiration. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'impressionnisme a ouvert une voie et que les seconds, les Américains, l'ont refaçonné eux-mêmes de façon autonome. Ce qui fait qu'on a peut-être moins une histoire d'héritage qu'une histoire de dette. Et c'est la dette que l'on doit peut-être aussi à la critique et aux artistes américains pour avoir redécouvert ce dernier Monet, qui est une expression de Greenberg, le dernier Monet. Et cet héritage-là, il est à la fois donc évidemment dans la critique, ça, Corinne a bien parlé tout à l'heure, mais aussi du point de vue des artistes, puisque Newman fait vraiment partie de ceux qui ont redonné une origine à la modernité. À l'époque, la modernité, c'est plutôt Cézanne, c'est plutôt le post-impressionnisme, et lui, au contraire, milite pour qu'on ramène en fait cette origine un peu plus tôt, et notamment à Monet. Donc, de ce point de vue-là, on a peu d'éléments théoriques nous qui nous permettent de voilà dans le catalogue on en a plus, mais en tout cas dans l'exposition on n'est pas vraiment dirigé en tout cas dans cette réflexion-là. Donc on doit prendre les choses un peu comme elles viennent. Alors c'est vrai qu'il y a des rapprochements formels qui paraissent parfois évidents, mais parfois aussi un peu tirés par les cheveux parce qu'on va nous parler par exemple de la verticalité, puis juste après en fait on va avoir des barres horizontales qui vont contredire finalement ce premier postulat. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu perdu. Moi, la salle sur l'abstraction gestuelle, elle m'a pas tellement convaincue parce que précisément, je trouve que le geste, effectivement, il est plus libre, il est moins discipliné. Le geste de Monet sur la fin de sa vie, on le voit comme ça dans un court film d'une minute trente, si je me souviens bien, donc avec une sorte de spontanéité, d'indolence, mais c'est pas non plus la fureur de Pollock, c'est pas moi je trouve que cette comparaison je l'ai trouvée un petit peu abusive.
Évidemment c'est pas la même fureur, enfin on n'est pas on voit déjà Monet dans son costume avec son chapeau, on n'est pas à la même époque, enfin voilà, on n'a pas la même manière de se comporter face au tableau et au chevalet, c'est sûr, je dis pas que c'est évidemment, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est ça que je trouvais amusant. C'était malgré tout cette idée d'une spontanéité, d'une gestuelle. Et justement, je trouve que ce Monet tardif, parce qu'on parle bien de ce dernier Monet, on ne parle pas du Monet d'avant, il excède le cadre d'une école de l'impressionnisme qui a pu devenir une école. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant.
Vous dites, c'est pas à la même époque, c'est pas à la même énergie non plus. C'est-à-dire que aussi le dernier Monet, c'est un Monet qui est quand même fatigué, accablé, qui n'arrête pas de se plaindre, qui est dans une forme
qui voit mal,
qui dit lui-même que c'est pénible. Faut quand même rappeler que 1900-1926, c'est 450 tableaux, 300 des nymphéas, d'accord. Enfin, en tout cas, de ce jardin d'Hiverny. Donc, il s'épuise aussi là-dedans, et certains critiques de l'époque voient justement son propre épuisement comme un reflet aussi de l'épuisement, du déclin de l'époque, et que ce serait une forme de d'art trouble pour une époque trouble, c'est dans Après le cubisme aux enfants et Jeanneret qui disent ça, mais c'est assez juste, alors qu'effectivement Pollock c'est plutôt la régénération post-guerre dans une Amérique qui va plutôt bien puisqu'elle est victorieuse, on n'est pas du tout dans le même contexte, donc du coup je suis pas sûr que rapprocher ces gestes sur ce moment-là soit vraiment pertinent. Après malgré tout, je trouve que le sujet est absolument passionnant, qui mérite véritablement d'être posé. C'est vrai que moi, je suis resté sur ma faim, mais malgré tout, j'ai appris beaucoup de choses. Et alors, vraiment, plus ça tombe à point nommé pour moi, parce que il y a peu dans cette émission, on a discuté de Corot au musée Marmottan, et à cette occasion, j'étais descendu voir les Monet qui s'y trouvent, et il y a les ponts japonais, qui sont pour moi les motifs que je préfère, je pense, parce qu'il y a trois types de motifs dans Giverny, les nymphéas, le sol pleureur, le pont japonais qu'on retrouve dans cette exposition. Et effectivement, dans le pont japonais à Marmottan, on peut être très très proche en fait de la toile, et on voit là l'épaisseur de matière, on voit cette forme de recherche matiériste très très proche de l'expressionnisme, la dilatation des formes, les masses, le principe d'équivalence de partout dans la composition. Et je m'étais fait déjà la remarque qu'il y avait plus naturaliste, il n'y avait plus de figure, quoi. Donc du coup, de voir là appliquer finalement, et d'avoir quelques indices de plus, ça reste quand même très réjouissant.
Ah, il y a un pont qui a presque disparu hein, dans l'exposition de l'Orangerie.
Ils ont tous disparu quasiment. Parce que les deux là qu'on a sur la première salle, c'est de la bouillasse de peinture. Enfin, on est vraiment dans de la boue. Et c'est ça qui est très fort. Alors, on peut faire toutes les critiques qu'on veut sur les questions un peu plus isme. Mais en fait, si on regarde bien l'exposition, alors moi je trouve qu'effectivement il y en a trop à la fin. Pour moi, il y a ce que vous appelez la salle gestuelle, mais pour moi il y en a trop, même si je comprends et c'est tout à fait justifié à l'intérieur justement de l'histoire même de comment on l'a redécouvert. Mais si on regarde bien, puisque je parlais tout à l'heure de la continuité de problèmes plastiques et non pas d'une continuité historique, et la redécouverte, c'est puisqu'en fait notamment Eric de Chassé mais aussi la commissaire s'interroge sur la question de l'influence. Il n'y a pas une descendance, quoi. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de cause à effet, puisque d'une certaine manière, ils se retrouvent tous, même après la mort de Monet, ils se retrouvent tous en 50, en train de se poser des questions qui sont absolument visibles dans l'exposition, dont Monet est un précurseur, c'est-à-dire l'extension du plan, ça sera le color field, l'extension de la surface hors cadre, ça sera le all over, l'obtention de la forme plate, ça sera Rothko, manifester l'ampleur de la couleur, ça sera Newman, la peinture comme énergie plutôt que la gestuelle, ça sera de Kooning, qu'on voit très bien, c'est un des rares tableaux de paysage qu'on a. C'est la peinture qui édifie le format, c'est Clifford Steele. C'est l'effacement du motif au profit de la couleur, c'est déjà chez Monet. C'est la dissolution du motif qui n'est plus de l'imitation. Et quand dans l'exposition, on a encore des formes inimitatives, notamment le sol pleureur ou les nymphéas bleus de Monet, et qu'il montre des ponts japonais où il n'y a plus de ponts, eh bien d'une certaine manière, c'est une manière de dire, oui, les artistes aussi qui sont dans l'impressionnisme abstrait, c'est ça aussi qui est en jeu, le primat de la sensation, cette manière de peindre des surfaces. On le voit très bien avec
Personne ne vous aide.
Non, mais je sais, mais en fait, je cherche mon truc. Ah, Frank Henthaler, qui travaille vraiment sur la dimension aqueuse. Et on a ça aussi chez Monet, comme on l'a chez Maurice Louis. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée aussi de créer un modèle de nature qui n'est plus l'imitation. Tous ces éléments-là sont plastiques, purement plastiques. Ce sont des problèmes à résoudre. L'évacuation aussi du relief, c'est à l'intérieur de chacune des œuvres qui sont là. Et il faut quand même parler d'abord la Sixtine de l'impressionnisme, comme le disait Masson. Je veux dire, on a vraiment un jeu qui se joue là, parce que la question de la surface, la manière dont le plan justement se dilate, qui va être chez Ellsworth Kelly notamment, et l'accrochage qui a été fait avec 8 dessins d'Ellsworth Kelly, d'ailleurs avec une symétrie qui a été faite, et aussi une rythmique 1 sur 2 avec la queue de nénuphar qui est fermée, ouverte. On a comme ça se replie vers un tableau bleu-vert d'Ellsworth Kelly qui passera plus tard au monochrome et qui sont cette entrée vers les nymphéas, quoi. Alors je trouve que par exemple la sculpture en bois est de trop, mais comme c'est une expo dans l'expo, bon bref, voilà. Non, je trouve que si on n'a pas le catalogue, je veux dire, il suffit de se servir de l'œil quand même pour voir où ça se dilate, où ça disparaît, où ça se dissout. Donc il faut prendre les choses là où elles sont, c'est-à-dire du côté de l'œil et pas nécessairement du côté de l'érudition, sinon ça se fait à la maison avec le catalogue.
Sandra Adam-Coralli, un dernier mot.
Oui, je suis juste d'accord que effectivement parfois l'exposition tend à la démonstration et on nous explique bien dans tous les cartels quand est-ce que chaque artiste américain est allé voir ou a pu voir les nymphéas.
Aurait pu voir
les nymphéas de Monet et c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'évidemment Ellsworth Kelly notamment quand il fait cette série magnifique dont vous parliez Corinne d'observation de plantes, il est aussi influencé par Matisse. Enfin bref, il est influencé par bien d'autres gens, mais plus que l'influence réelle qu'aurait eu Monet sur cette génération d'artistes américains, moi je trouve que l'exposition elle montre justement en quoi cette œuvre ancienne, enfin du début du XXe siècle, nous concerne encore aujourd'hui. Et je trouve qu'elle permet de l'exposition, en tout cas, elle a le mérite de faire se rencontrer des mondes peut-être qui se côtoient peu, c'est-à-dire que peut-être que le visiteur ou le spectateur d'art moderne va voir autrement le Monet, et inversement, peut-être qu'un spectateur de Monet, tout d'un coup, va voilà, je ne sais pas, c'est peut-être un outil ou une clé d'entrée dans cette abstraction.
Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Peut-être Coppelia Ménardien, ou deux commentaires.
Oui, sur Twitter, un commentaire de Madame de Staël. Petite mais splendide exposition sur l'influence du dernier Monet sur l'abstraction américaine, avec de nombreux tableaux de Washington, New York et un catalogue qui a l'air passionnant. Autre commentaire de S. de Rowe qui écrit « Belle exposition, intéressante au point de presque me faire apprécier cette période de Monet ».
Bon, écoutez, presque. Il faut y retourner pour soi tout à fait. Voilà, on y retournera. Au Nymphéa et à l'abstraction américaine et dernier Monet, c'est jusqu'au 20 août au musée de l'Orangerie. Puis le catalogue, je ne sais plus qui, c'est le musée de l'Orangerie qui l'édite, je ne sais plus, je ne l'ai pas sous les yeux, je n'ai pas mon dossier avec moi, c'est très mal, mais on y trouvera des textes qui problématisent effectivement les quelques points que nous avons abordés, et puis évidemment d'autres encore à suivre dans la dispute, Subodh Gupta et Lutz Bacher.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir aux arts plastiques en nous rendant à la Monnaie de Paris, si on a souvent vu des pièces isolées de Subodh Gupta dans des expositions collectives, des biennales, c'est la première rétrospective en France d'un artiste très prisé dans le monde entier. Leader d'une scène artistique indienne très en pleine forme depuis quand même de nombreuses années. On reconnaîtra sûrement ces sculptures composées d'ustensiles de cuisine en inox, mais on découvrira ici d'autres formes pour son travail. Et puis toujours quand même ces mêmes obsessions, les rituels du quotidien, et peut-être pour en révéler leur caractère spirituel. Ça sonne, mais quelqu'un va répondre, c'est Sandra d'Encouralet, pour commencer cette exposition à la Monnaie de Paris, Subodh Gupta.
Oui, donc c'est une plongée dans les œuvres de ces artistes qui, depuis les années 90, vous l'avez dit, utilisent ce matériau principal qui est la vaisselle en acier inoxydable, donc qui est le symbole de cette vaisselle qui est utilisée dans la plupart des foyers indiens. Et du coup, pour si je veux généraliser, c'est à la fois une sorte d'invitation, le fait de focaliser sur ce matériau. C'est une manière de se concentrer sur cette question du repas, qui est un rituel pour lui très important, avec dans son caractère quotidien et vital, et en même temps le côté évidemment scintillant, très
brillant.
De cette vaisselle en fait évidemment une vanité, comme le démontre très bien ce dieu insatiable là, le Very Angry God, en énorme crâne qui est fait entièrement, donc il fait à peu près, je sais pas exactement la taille, mais bon, 4 mètres de haut,
entièrement fait
merci Corinne
en batterie de cuisine
qui est
Voilà,
qui est pour lui une image de mort, donc une vanité et une dénonciation évidente de peut-être de la misère qui se cache derrière ce contenant qui parfois a du mal à recevoir un contenu, si je puis aller vite.
Mais il n'y a pas que ça. Vous voulez que quelqu'un d'autre continue ?
Ah, si vous voulez.
Allez, Florian Gautier continue pour nous donner peut-être à voir et à décrire des œuvres ou des pratiques que moi, en tout cas, je ne connaissais pas ou beaucoup moins de Subodh Gupta dans cette exposition.
Moi, je connaissais Subodh Gupta pour ses installations spatiales, surtout, c'est-à-dire vraiment des lieux où il arrive à embrasser l'abondance, à nous donner comme ça une sorte de sentiment de saturation, et ça peut fonctionner dans des espaces. Mais là, le choix est plutôt de se porter sur des œuvres sculpturales ou des objets. Donc, c'est plus tout à fait le même rapport à cette abondance, à cette accumulation qui s'instaure avec le spectateur. Et c'est un enfant de l'Inde contemporaine, c'est-à-dire écartelé entre, d'un côté, une fuite en avant dans l'économie de marché, le capitalisme, avec des industries de pointe, des milliardaires, etc. Et puis, de l'autre côté, un conservatisme des traditions religieuses, spirituelles, encore très très fort, du système des castes, etc. Et donc, on est toujours dans cette forme de paradoxe et d'ambiguïté entre le prosaïque et le métaphysique, le trivial, et quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Donc, ça se voit dès l'entrée, en fait, dans la cour de où on voit cet arbre qui s'appelle le People Tree, qui est bizarrement traduit par l'arbre des gens, mais je préfère traduire par l'arbre du peuple, parce qu'en fait, il reprend c'est un des symboles de après le lotus de l'hindouisme, puisque c'est l'arbre de la connaissance suprême. Et de l'autre côté, c'est un lieu aussi évidemment politique, parce que c'est sous ces arbres-là que se réunissent les gens, prennent des décisions, conversent, une sorte d'agora en fait à l'indienne. Et c'est assez symptomatique de la façon de Subodh Gupta de travailler, c'est-à-dire de présenter des œuvres assez spectaculaires, miroitantes, rutilantes, qui peuvent comme ça attirer l'œil ou accrocher l'œil. Et puis derrière, en fait, de disséminer une sorte de propos un peu plus ancré dans un réel beaucoup moins illusoire. Alors moi, du coup, j'étais un peu déstabilisée par cet entre-deux, ces changements d'échelle, etc. Parce que j'ai pas forcément toujours trouvé mon positionnement. Et je pensais que le spectaculaire prenait un peu trop le pas sur parfois la réalité qu'il entendait toucher, voire dénoncer, critiquer, etc. Et que j'ai pas forcément toujours réussi à trouver l'équilibre entre quelque chose d'assez contemplatif, parce que ça reste quand même des œuvres assez sensibles, quoi, c'est impressionnante, et puis un propos plus intellectuel, plus herméneutique. Alors ça continue en fait dans l'entrée. Alors là, pour le coup, je trouve la mise en espace est parfaite. Cette corne d'abondance qui est prise à partir d'un plat traditionnel indien qui s'appelle le handi, dont sort en fait des objets assez ordinaires, des pierres, la paille, et puis évidemment des ustensiles de cuisine, qui est une sorte de trésor en fait du quotidien indien, qui sont presque tombés sur nous et qui annoncent en fait vraiment cette forme de contradiction entre, d'un côté, un trésor très prolifique, enfin voilà, qui est très une abondance, une vraie abondance, et en même temps une sorte de sobriété aussi, d'humilité dans les choix qui l'opère, quoi, les choix de sujet. Et du coup, l'entrée de l'exposition est assez surprenante pour ça, parce qu'on a l'habitude de ces grandes installations, et là on tombe sur quelque chose d'assez minimaliste, un jeu comme ça de trompe-l'œil, d'illusion sur des objets du quotidien. Alors, ça peut être des mangues, ça peut être la vaisselle, ça peut être une pièce, un verre d'eau, ou la fameuse pâte à pain sur une table, qui sont reproduits à l'identique, qui se moquent aussi un peu du minimalisme occidental, avec notamment ces deux toiles, l'une retournée au sol, posée au sol, et un monochrome blanc qui est en fait une toile vide accroché au mur. Et ça donne aussi le ton de ce rapport contrasté à l'art occidental en général que Subodh Gupta essaye de s'émanciper.
On va poursuivre cette exposition à la Monnaie de Paris avec Corinne Rondeau, parce que c'est encore quantité de pièces que nous n'avons pas évoquées, pour donner un aperçu d'une œuvre effectivement assez diverse.
Oui, divers, c'est surprenant, parce que je me rappelle que je l'avais découvert avec vous, Arnaud, à l'île 3000.
Et c'était pas même l'île 2004. Je me demandais
peut-être,
en fait.
2004
l'église
ou 2006,
Saint-Sauveur.
2006, je crois.
2006, ouais. D'accord. Bon, enfin, ça fait un petit moment.
En fait, j'avais...
Ça, c'était l'église Saint-Sauveur,
ouais.
Hein, de...
ou
l'église.
Oui, il y a eu ça. Aussi. Ouais.
Ouais.
Mais bon,
bref.
Peu importe. Mais en tout cas, j'avais toujours l'identité culturelle avec lui à cause de justement cet agrégat d'ustensiles qui représente 80% de l'utilité, d'utilisation en Inde. Et donc, il y avait quelque chose de d'ailleurs qui venait ici, qui nous disait quelque chose de là-bas. Et bon, j'avais une certaine affection pour ce geste-là.
Moi aussi.
Et sans en faire des caisses non plus, je dirais. Et là, j'ai été un peu surprise, apparemment comme un peu tous mes camarades. Mais sur le coup, pas contente. Et puis dans l'après-coup, je me suis dit, en fait, ce type qui a découvert Duchamp à 25 ans, il a découvert, en fait, parce qu'il va faire, d'une certaine manière, des ready-made en faisant des copies ou des doubles comme ça. Il y a quelque chose d'un après Duchamp, mais sans discours. Il y a quelque chose de l'art occidental sans vouloir être un concurrent. Et il y a quelque chose, une sorte de alors peut-être d'humilité, comme vous le disiez, Florent, mais aussi, je crois qu'il y a un mot qui parce que j'en ai un peu discuté avec quelqu'un, et le mot de naïveté, parce que je me dis, mais il y a quelque chose de trop simple. Et on me dit, mais c'est peut-être de la naïveté. Et je crois qu'effectivement, cette naïveté est aussi la qualité de Gupta. C'est-à-dire que je crois que, je veux dire, parce qu'à la fin, quand je suis arrivée sur cette vidéo avec du Tchaïkovski, et que vous avez une crêpe qui est lancée dans le ciel, alors les nuages, les oiseaux, les arbres, mais à un moment donné, il y a aussi dans cette vidéo une patte, et on voit pas les doigts, mais on voit la patte qui est tirée, et il y a une sorte de rapport très physique, très sensuel, à ce rapport au pain, et il est autant cuisiné qu'il est artiste. Il aime la nourriture, il a fait cette médaille à la Monnaie de Paris, dont le motif, ce sont des épices, et c'est quelqu'un qui se pose la question, non pas, je dirais, de la... du luxe ou du non-luxe. Il y a aussi un diptyque vidéo qu'il a fait pour Chanel, et il avait dit, je veux pas travailler pour le produit du luxe. Il leur a envoyé deux vidéos. L'une est une compilation de films bollywoodiens, et à côté, ces gens qui travaillent au Qatar ou dans les pays où on croit pouvoir s'enrichir, et en fait, ils vont mettre dans un tissu tous les objets qu'ils vont ramener là-bas avec un enrichissement qui est un appauvrissement, en fait. Et en fait, la vraie question de Gupta, moi, il me semble, c'est qu'est-ce que c'est que la prospérité? Voilà. Et ça reste une question. Ça n'est pas une réponse. Son œuvre n'est pas une réponse, parce que son œuvre, c'est quoi? On est face à de l'agrégat d'objets rutilants qui se pose la question du contenant, et de l'autre, la question de la cuisine ou de la nourriture, autour de rites, de réunions de gens. Il y a beaucoup d'installations où on voit une vidéo avec des hommes et des femmes qui mangent sans arrêt dessous, sous la table. Il y a encore des ustensiles. De l'autre côté, vous avez une table à sushi ou des tas de contenants
en inox
tournent comme ça. Donc, il crée cette espèce de mouvement, de spatialisation autour de ce qui nous maintient quand même en vie, c'est-à-dire de la nourriture. Et donc, il a un rapport un peu étrange, c'est vrai. Je ne suis pas tout à fait immédiatement plongée dans le travail de Gupta. Mais je trouve qu'en fait, j'étais partie en me disant, bah, je ne vais pas être contente. Et en fait, je me dis, mais je ne vois pas pourquoi je ne serais pas contente avec quelqu'un qui a juste l'humilité de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire dire qu'il n'a pas fait de toujours des bonnes pièces, dire qu'en fait ce qui l'intéresse c'est aussi la manière dont on se réunit, on ritualise, et en même temps il est effectivement, je dirais, conscient du monde dans lequel il vit, même s'il vit toujours en Inde et qu'il est, c'est pas un Indien comme la Kapoor britannique, c'est un type qui parle mal l'anglais, c'est quelqu'un qui est il a toujours le seul sur lequel il a marché enfant, il l'a toujours avec lui. Et quand en fait il fait aussi, parce qu'il y a de petites choses qui m'ont un peu déclenché une bonne contradiction, je dirais, à la fois ces vidéos pour Chanel et à la fois ce 1 kilo de guerre qu'il a fait en or. On se dit qu'il y a quelque chose de la prospérité qui vient se poser en voilà. Et alors il ne va pas le théoriser, il ne va pas en rajouter des caisses. Alors c'est vrai que ça crée une sorte d'inégalité dans son travail, et on ne sait pas où ça se passe. Mmh. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il fait du faux, tout en voulant maintenir quelque chose d'un artifice face auquel il peut y avoir aussi un rapport à la contemplation, même si je trouve que ces tableaux en acier sont atroces.
Ouais, mais c'est vrai que je vais adhérer à cette thèse de la naïveté, parce que moi, j'étais assez aussi circonspect devant certaines de ses œuvres, enfin devant surtout ces grandes variétés finalement de façon de travailler, ce qui n'est pas en mal en soi, mais je cherchais, est-ce qu'il y a de la critique, est-ce qu'il y a de la mystique, est-ce qu'il y a de l'humour, est-ce qu'il y a...
Et en fait, je crois,
Florian Guettet, puis...
Oui, non, j'aime bien ce terme de grandeur, de naïveté pour le qualifier, parce qu'en fait, j'ai toujours une hésitation entre une pensée pauvre et une pensée du pauvre. C'est-à-dire qu'il y a tout ce travail du double, hein, qui est en fait une sorte d'alchimie du pauvre, parce qu'on
on transforme... On n'a pas cité ces pièces, alors des toilettes...
Des toilettes de cinéma, le projecteur
mais qui sont
de cinéma
doublées
à l'ancienne.
Or, enfin,
et
en
fait,
cas,
c'est du laiton, du nickel.
Et les deux pièces sont ensemble.
Ce sont pas forcément des matériaux très valorisés. Oui, quoi. Oui. Donc il y a cette alchimie du pauvre, et parfois on a des œuvres qu'on dirait presque en toc, quoi, qui sont presque aussi en toc que leur matière, presque aussi creuse que les casseroles.
Sont
exactement.
C'est du toc.
Exactement.
Donc ça brille, mais c'est du toc.
Ouais. Donc on est vraiment dans cette forme de pauvreté là, et après à nous de nous positionner dessus. Est-ce que on considère que c'est une force de pouvoir ouvrir le champ de l'art à ces formes-là, ou au contraire, est-ce qu'on va considérer que c'est une faiblesse de ne pas pouvoir s'élever intellectuellement, quoi.
Sandra Adam Courallet, pour terminer cette séquence.
Oui, juste pour finir, moi je trouve que le message de Gupta, il est assez clair, en fait, dans ses œuvres. Chaque fois, il y a une intention d'énonciation, je trouve, qui est assez... clair, mais voilà, moi que je trouve souvent trop littéral. Moi je trouve les œuvres un peu autoritaires, dans le sens où il y a quand même peu de place pour l'interprétation. Enfin, c'est assez spectaculaire.
Alors, c'est
dans les matériaux.
Ou naïf, on en revient encore à cette façon de percevoir le travail.
Enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme d'autorité quand même dans ce spectacle.
Vous voulez dire qu'il n'y a qu'une chose à voir ou à comprendre?
Oui, souvent. Après, en revanche, il y a quelques pièces qui font exception, notamment celle Face Matters, donc qui est composée de ces nombreux ustensiles.
La table à sushi, là.
Voilà, la table à sushi qui tourne en boucle sur un tapis roulant. C'est une sorte de machine solitaire qui forme comme un paysage absurde. Voilà, là, tout d'un coup, on peut y voir entre une forêt d'immeubles étranges, des personnages d'un échiquier piégé. Enfin, on peut y projeter plein de choses, contrairement à beaucoup d'œuvres.
Sur lesquels on ne peut pas vouloir dire un dernier mot quand même.
Non, mais je crois qu'il est dans la littéralité, mais sans encombrement. Enfin, je veux dire. Et moi, je trouve que c'est bien parce que comme il vient d'Inde, je veux dire, il n'a pas le discours européen. Et c'est justement tout l'effort que ça nous demande de faire, de ne pas coller l'étiquette immédiatement. Et je trouve que c'est une belle invitation que la Monnaie de Paris a faite.
Ouais.
Un lieu sans subvention, un lieu ouvert aux Parisiens. Il serait bon que les Parisiens traversent ce lieu merveilleux qui est le dernier palais industriel qui fonctionne encore.
Ah oui, cet après-midi, c'était désert.
Eh bien, c'est dommage, il faut qu'y aller, parce que c'est très bon, en plus. Et un café, hein.
Oui, aussi un café. Coppedia, Ménardia, un commentaire.
Oui, sur Twitter, Ronan Bretel parle d'une œuvre complètement littérale, bling bling, et qui peine à se renouveler, d'un art industriel qui se voudrait anthropologue, d'une forme facile à défaut d'être subtile.
Bon, on a dit qu'on n'était pas forcément tous d'accord, mais peut-être un peu, Sandra.
C'est un discours occidental, quoi.
Ouais, ben peut-être. Donc, déplaquons pour voir le plaqué chez Subodh Gupta, rendez-vous, c'est jusqu'au 26 août à la Monnaie de Paris. Là aussi, il y a un catalogue et j'ai pas pris les références, et c'est très mal de ma part. Pardon ?
C'est la Monnaie de Paris.
C'est la Monnaie de Paris qui est édite. Là, par le compte, j'ai un joli dossier de presse sous les yeux. Bon, je vous donnerai tout ça. De toute façon, c'est sur le site merveilleusement fait de la dispute. Vous allez voir sur franceculture.fr.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Bon, c'est Skira qui édite le catalogue Subodh Gupta. Là, nous parlons maintenant pour le troisième sujet de cette dispute art plastique, sujet double, enfin, vu le temps qui reste, ça va être rapide. Un nouveau lieu, quand même, Lafayette Anticipation, et l'exposition inaugurale, celle de Lutz Bacher, Lutz Bacher. Vous dites comme vous voulez, en tout cas c'est pas son vrai nom déjà. Lafayette Anticipation, c'est le lieu de la fondation d'entreprise Galerie Lafayette, présentée comme étant une fondation d'intérêt général structurée autour de son activité de production et de soutien à la création dans son ensemble. Fin de citation, elle a ouvert au mois de mars. C'est un bâtiment du 19e siècle dans le Marais, réhabilité par l'agence de Rem Koolhaas. Peut-être juste un mot sur le bâtiment, Florian Guettet, sur le lieu lui-même, avant de parler de l'exposition.
Bah, c'est un lieu sur lequel Rem Koolhaas n'a pas pu beaucoup agir, parce que c'est un monument historique. Donc ce qu'il a fait, c'est d'investir la cour extérieure, dans laquelle il a monté une sorte de tour, avec des plateaux amovibles, à coulisses, qui sont modulables, et qui peuvent aménager l'espace en 40 propositions différentes. Voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus.
Bon, bah du coup, on va passer tout de suite à l'exposition. Voilà le son, en tout cas, qui peut environner le visiteur. Vous commencez quand même, Lutz Bacher, c'est vous qui dites ça. Comme son prénom ne l'indique pas, est une femme américaine qui a débuté sa carrière à la fin des années 70 en Californie, qui vit depuis quelques temps maintenant à New York. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce travail-là ?
Ah ben en tout cas, la proposition, peut-être plus que du travail, mais la proposition, elle est complètement déceptive. Et comme c'est pleinement assumé, ça en devient très intéressant.
Bien.
Donc effectivement, c'est une artiste qu'on connaît peu en France, qui pourtant n'est pas toute jeune. Hein, donc Lafayette Anticipation, normalement, fait découvrir des jeunes talents. En tout cas, c'est son... Bon, ben là, c'est un talent un petit peu plus mûr, mais qui effectivement a quelque chose de très mystérieux. Elle utilise un pseudo, elle se montre peu, elle parle peu aux journalistes. Et puis surtout, là, elle a vraiment insisté, alors que c'est une artiste conceptuelle, pour ne pas donner d'éléments d'interprétation, ni même aux médiateurs. Donc on a très très peu de choses à se mettre sous la dent en termes de discours, et c'est peut-être pas plus mal, puisque ça en fait une œuvre ouverte à l'interprétation. Alors, c'est peut-être pas une œuvre, d'ailleurs, c'est une proposition, un geste d'intrusion, d'indiscipline, à partir de quatre propositions, qui prend en fait l'invitation de la fondation Lafayette Anticipation à rebours, et ça en deux sens, parce que c'est une sorte de façon de ne pas célébrer en fait cette ouverture là et je trouve ça à la fois extrêmement insolent et ça me fait du bien de voir des artistes s'emparer en fait de ce moyen là comme presque une forme de subversion de l'économie de marché, des fondations privées, etc. Donc je trouve ça très malin, c'est une sorte de complicité et en même temps de pied de nez en fait qu'elle joue. Alors comment elle met en scène cette anticipation? Ben d'abord elle profite pas du tout des potentialités du lieu, le plateau à coulisses elle investit peu et puis de toute façon elle le laisse là où il était. Il y a très peu de choses à voir, ce sont des œuvres assez invisibles, alors reproduites à l'identique, par exemple le premier et le deuxième niveau, puisqu'il y a trois niveaux en tout, premier et deuxième niveau sont les mêmes. Il y a donc une vidéo tournée avec son téléphone portable de la plage du Cap Ferret et des blockhouse qui sont dessus, tout ça même pas monté, donc c'est saccadé, il y a plein de d'intercalaires noirs. On a le son qui est un son saturé, mal travaillé, mal mixé, tourbillonnant, qui se diffuse dans tout l'espace. On a en haut des paillettes, alors ça pourrait être la fête, mais en fait pas du tout, parce que c'est des paillettes qui sont au sol, c'est des paillettes qui sont intrusives, qu'on va retrouver, il va en avoir pour des années avant de pouvoir balayer toutes les paillettes, parce que ça s'infiltre absolument partout dans les vidéos proches, etc. On les ramène avec nous dans nos chaussures, on en met partout, etc. Et puis une intervention assez subtile, hein, qui est en haut de briser l'idée que le troisième étage pourrait ouvrir sur un belvédère et sur une vue, et non, là on a des films réfléchissant, qui nous mettent face à nous-mêmes, dans une forme comme ça de vis-à-vis avec nous-mêmes. Au-delà de ça, il y a aussi une campagne d'affichage tirée de films de bord qui sont collés dans les rues du quartier. Une histoire aussi de dire qu'elle fera pas dans spectaculaire. Donc il n'y a pas de lumière, par exemple. Il n'y a pas de la lumière tout à fait naturelle. Il n'y a pas de véritable travail de narration dans ces vidéos. Enfin bon, tous les effets qui pourraient contribuer chercher comme ça à esthétiser en fait son propos sont complètement éludées. Et moi, je trouve que c'est une œuvre qui, dans son silence, hein, parce que c'est le titre de l'expo, le silence de la mer, est une œuvre contestataire qui va déjouer en fait toutes nos attentes en tant que public et en tant que critique encore plus, comme une sorte de déclaration d'indépendance par rapport à la proposition qu'on lui a faite. Et le silence de la mer, c'est peut-être ça, cette révolte invisible qui ne crie pas, qui ne se répand pas, mais qui n'en a pas moins des revendications fermes.
Vous me donnez très envie, hein. J'ai pas encore eu le temps d'aller à Lafayette Anticipation. Corinne Rondeau, votre regard sur cette première position. Bon, bah, alors, générique fin. Allez.
Oui, non, il a tout dit parce que, non, bon, c'est parfait, en fait. C'est parfait parce que justement, c'est un renversement de ce lieu qui est à la fois lui-même contraint par la structure ancienne. Et puis, par ailleurs, parce que, vous l'avez dit, 49 positions, j'ai eu l'impression que cette architecture, les plateaux, c'est le Kama Sutra.
Oui, c'est un peu ça.
Et donc,
ça,
elle arrive, vous dit, bah, écoutez, vous allez glisser sur mes paillettes, vous cassez la gueule. Effectivement, je vais en mettre partout. C'est-à-dire, il n'y aura rien. C'est-à-dire, elle pose une question, où est l'expo? Mais en même temps, ce vide est inquiétant. Je veux dire, pour une ouverture de soutien à l'art contemporain, on se dit, bah, où est l'art, finalement? Bah, l'art, il est là où il a envie d'être, et pas forcément dans l'utilisation. Et moi, ça me fait plaisir aussi de voir une artiste qui ne va pas prendre un lieu pour l'envahir, pour dire, je suis là.
Bah, elle le fait, d'une certaine façon.
Si, mais elle le fait avec une pertinence, une insolence, aussi pour reprendre un mot, et une intelligence qui est quand même pas fréquente.
Bah, c'est une bonne nouvelle.
Il faut nous dire qu'on fait ceci, qu'on est des dramaturges, qu'on prend de la place, etc. Mais, je veux dire, là, pour le coup, c'est absolument parfait. Et donc, moi, j'ai eu un grand plaisir à voir ça, c'est-à-dire cette manière de nous dire qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que c'est que l'art, et je peux le jouer aussi dans un lieu qui est d'un espace privé, dans lequel se joue autre chose que effectivement la propre manifestation et la propre présence et envahissement de certains artistes.
Bon, alors avant de donner la parole à Sandra Adam, pour aller tout à l'heure, j'ai pas dit que c'était Camille Morino et Mathilde Croix qui étaient commissaires pour Soudob Gupta. Alors pour la faillite d'anticipation, il y a une équipe curatoriale à la tête de laquelle se trouve François Quintin, qui est donc le directeur de la faillite d'anticipation. Alors je ne sais pas si précisément, j'ai pas trouvé de référence sur qui fait quoi. Je pense que Lutz Bacher a dû s'occuper de ça elle-même, mais
je pense que quand même,
elle sait très bien ce qu'elle fait.
Bah, qu'un bâtiment qui ouvre, on ne parle que du bâtiment, elle a dû se dire qu'à un moment donné, elle allait être un peu bouffée par le bâtiment, par l'ouverture du bâtiment.
C'est très fort ce que vous racontez.
Donc
là,
je pense que là, elle a eu l'intelligence de se dire, je ne lutte pas contre ça, mais par contre, ils vont s'en prendre plein les dents. Voilà.
Sandra,
je trouve que c'était très intelligent de l'inviter aussi, elle qui se cache sous un pseudonyme masculin, vous l'avez dit, sa pratique est aussi mystérieuse que son nom.
Ouais, elle est présentée comme une personne assez mythique de la scène californienne.
C'est ça, et donc c'était une très bonne idée de l'inviter. Elle remplit pas l'espace, elle le vide, c'est un geste, c'est déceptif, vraiment. Mais en même temps, voilà, vous l'avez dit, hein, c'est très juste par rapport à cette ouverture du lieu. Par exemple, ces images vidéo, le choix du format même de ces images vidéo, c'est exactement le pan de mur de chaque étage. Donc, elle vient vraiment souligner l'architecture. En fait,
Avec un blocos.
Mais il y a quelque chose de très radical, en fait, qui correspond complètement aux préoccupations de l'artiste. Et pour le coup, elle est héritière de Duchamp. Et ce que vous disiez, Corinne, c'est très juste, c'est que l'art n'est pas là où on croit. Et c'est exactement ce qu'elle nous montre. Et cette vidéo en mouvement, ces paillettes qui vont complètement contaminer l'architecture. D'habitude, elle détourne des objets, si vous voulez, dans sa pratique. C'est vraiment une pratique liée à la déconstruction. Enfin, on parlera plus longuement une autre fois. Ici, justement, voilà, le sujet qu'elle a pris, c'est l'architecture. Elle n'avait pas besoin d'ajouter un objet. Elle joue de cet objet.
Ça vous fait rire, Corinne Rondeau.
Non, parce que je repense, en fait, sur le film. Il y a des... On voit que ce blocos est au bord du sable, parce que les paillettes, ça ressemble au sable.
Je suis une sirène. Ouais.
Tag.
Et j'adore ce graffiti.
Je suis une sirène.
Et vous n'êtes qu'un lieu, voilà.
Ouais. Florian Guettet.
Oui, non, effectivement, le Blockhaus comme musée, puis aussi une façon de dire vous célébrez l'ouverture d'un truc, mais il y a aussi des événements dans l'histoire qui méritent commémoration, puisque c'est quand même le souvenir aussi de la Seconde Guerre mondiale qui est important dans son œuvre, et voilà, d'une façon pas trop appuyée, mais à un moment de nous mettre face à notre responsabilité de regard aussi.
Au Cap Ferret, ce sont des Blockhaus où on n'y a jamais été, ils n'ont pas servi.
Des Blockhaus non utilisés. Coppelia Ménardi, pour finir sur cette Lafayette anticipation.
Oui, sur Twitter, un avis de Christophe Eouzan. Regarder les murs pour découvrir l'horizon, être assourdi pour entendre le silence. Merci à Lutz Bachar pour l'installation sonore de Silence of the Sea. Merci aux médiatrices pour avoir rendu audible le propos de l'artiste. Enfin, autre commentaire de Lia Kamel. The Silence of the Sea est tout sauf silencieux. Il gronde, impressionne et charrie même des paillettes. Surprenant. Impatiente de voir comment les planchers modulables transformeront ce nouveau lieu à chaque exposition.
Bon, ben moi, je vais aller voir Lutz Bachar. Il faut que je me dépêche jusqu'au 30 avril seulement à Lafayette. Anticipation, je vais y aller. Et avant de conclure tout à fait cette émission, c'est l'heure où Camille André quitte son live tweet pour nous retrouver de ce côté-ci de la vitre du studio et nous donner à entendre d'abord la question du jeu d'hier au soir pour donner sa réponse également. Camille ?
Quelle sanction fut prise à l'encontre du film Titicut Follies lors de sa sortie en 67 et il fut interdit de visionnage aux États-Unis jusqu'en 91.
Ce soir, cinéma, encore des invitations pour le film Mes Provinciales de Jean-Paul Sivérac sont à gagner. Il est sorti aujourd'hui dans les salles. Quelle est la question, Camille ?
À quel philosophe Jean-Paul Sivérac fait-il référence avec le titre de son film Mes Provinciales ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur le site franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain, vous les postez soit sur la page Facebook La Dispute FC, soit en suivant le compte Twitter Dispute FC. Demain, 19h, donc dispute littérature, en compagnie de Florent Georgesco, Philippe Chevillier, Jean-Christophe Brianchon, notre sommaire, Kayla La Rouge d'Isaac Bachevis Singer, Fanny de Sylvain Christian David et Poids et Mesures de H.M. Vandenbrink.